Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. Je suis fatigué, Johan. J'y arrive pas.
Oh là là.
Non seulement, tu sais, d'habitude, je suis fatigué, mais il y a au moins de l'énergie qui me vient des sujets dont on parle, tu vois. C'est genre, c'est cool, c'est top et tout. Et là, j'y arrive moyen, quoi. Je sais pas si ça spoil peut-être un peu, mais c'est super Laser Punch. On parle de trucs Marvel, de trucs Star Wars aussi, de plein d'autres choses où il y a des super, des lasers et des punch. Et je suis Patrick Béja, et ici, il y a Johan. Comment ça va, Johan?
Moi, ça va bien. Moi, j'ai la pêche, écoute.
Très bien.
Alors, voilà, tout ne va pas merveilleusement bien, forcément, mais écoute,
bon,
mais ça va.
Écoute, très bien. On va dire que ça va en moyenne, entre nous tous, ça va. Si vous entendez du Peppa Pig derrière, c'est parce que mon fils est malade, et donc, comme c'est moi qui suis en charge, je l'ai mis devant la télé, en bon parent, et il regarde Peppa Pig. J'ai essayé de lui proposer d'autres trucs, mais il ne veut pas. Bon. Donc voilà. Et du coup, on fait quoi aujourd'hui? J'ai déjà oublié. Je préférerais oublier.
Ouais. Aujourd'hui, on va baigner dans les lacs du Mandalore et ressortir empoisonné.
Bon, vous l'aurez compris si vous me suivez sur Twitter, peut-être même que si vous suivez de très près le Discord, vous aurez compris que je n'ai pas été super fan de la saison 3 du Mandalorian. On va percer l'abcès tout de suite, Johan. Toi, est-ce que tu as aimé ou pas la série?
Alors, bof.
Okay, ouais,
assez bof. En fait j'aimerais en sortir du positif. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre cette saison, en fait. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a un truc bien là-dedans et que j'arrive pas à y adhérer, en fait. C'est plus ça.
Mmh. Alors, je suis curieux de savoir quel est le truc bien que tu penses qu'on va percevoir dans cette saison. Tu sais pas.
Non, on va en parler, on va dérouler, peut-être qu'on trouvera au fur et à mesure.
Alors, je sais pas si on va faire tous les épisodes, hein, parce qu'il y en a 8.
Non.
Mais en fait, vous doutiez peut-être qu'on n'a pas été ultra fan, parce que généralement, quand on adore une série, on veut en parler tout de suite, et c'est genre, la quantité d'amour qu'on a pour un truc est proportionnelle, est retranscrit dans la quantité d'épisodes qu'on fait sur la série. Genre, allez, tous les épisodes ou tous les deux épisodes, c'est genre, ouais, on veut en parler tout de suite. Là, on s'était dit, bon, on va faire deux sur le Mandalorian. On fera la moitié et puis à la fin. Et à la moitié, on se parle sur Discord avec Yonan. Voilà. Bon, on est un peu occupé. Est-ce qu'on pourrait... Genre, allez, on va faire toute la saison d'un coup. Mais du coup, on ne va pas faire tous les épisodes d'un coup. Est-ce que tu veux que je commence avec... peut-être que je vais commencer parce que je pense que je vais être plus négatif que toi.
Ouais. Allez, vas-y.
Et comme ça sera un peu plus positif à la fin. On finit avec le positif. Il faut rappeler, pour les auditeurs qui ne s'en souviennent pas, que toi comme moi, on a beaucoup aimé le Mandalorian saison 1 et saison 2. Et qu'il y avait une originalité et une originalité, mais pas que l'originalité du scénario et du personnage qui sont enfin quelque chose de nouveau dans Star Wars, mais aussi une écriture qui était vraiment motivante d'un épisode sur l'autre. Que ce soit la saison 1 ou la saison 2, il y avait plein de trucs dont tu te souvenais. Il y avait, alors d'une part, The Way des Mandalorian qui fonctionne bien, le paquet dont on ne sait pas ce que c'est, et puis on découvre que c'est le mini Yoda Grogu, et puis il y avait les différents personnages qu'il rencontre dans ce truc thème western de l'espace qui est vraiment réussi, et puis le type qui dit « I have spoken », et les trucs comme ça qui étaient vraiment mémorables, quoi. Et puis le découpage en rencontrer un personnage différent par épisode, et puis à la fin, ça va être les mini-Avengers qui se retrouvent pour combattre le méchant. C'était sympa, c'était bien foutu, ça fonctionnait, etc. Saison 2, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais on l'avait aimé aussi. C'est bien loin tout ça. C'est bien loin. Parce que cette saison 3 est pour moi totalement incompréhensible. J'arrive pas à comprendre comment Jon Favreau, qui est à l'origine de cette saison et de la série et de la saison, qui a écrit un certain nombre d'épisodes de cette saison comme des saisons précédentes, réussit à tellement réussir un truc. C'est pas la première fois, hein, on a vu Iron Man, et à le planter tellement dans les suites. Iron Man 2 était une catastrophe. Iron Man 3, moi j'ai aimé, mais il avait plus grand chose à voir avec ça, c'était très différent, mais j'ai beaucoup aimé. Mais là, on est vraiment dans le cycle Iron Man 2, la saison 3 de Mandalorian, il n'y a plus rien qui va. Tout ce qui était cool dans les saisons précédentes a été délité, éparpillé, et plus rien ne va. Je vais rentrer un petit peu dans les détails. Pour moi, l'un des énormes problèmes, c'est qu'il n'y a pas vraiment une histoire cohérente qu'on peut suivre du début à la fin. Et c'est même pas juste que c'est genre une série, comment on les appelle, les séries épisodiques où chaque épisode c'est le méchant de l'épisode ou le truc comme ça, parce qu'il y a un peu de ça, mais au-delà de ça, chaque épisode est un truc qui aurait pu être une saison entière et qu'on évacue en 25 minutes. Genre c'est un problème monumental qu'on évacue avec « Ah bah oui, bah, il suffisait de faire ça ». Un exemple, quand il veut absolument redevenir un vrai Mandalorian parce qu'il a enlevé son casque. Non, il a enlevé son casque, il faut qu'il remette son casque et qu'il aille se baigner dans les eaux de Mandalore. Okay. Bon, il est devenu, comme on dit en français, apostate. Enfin bref, il a été genre excommunié de la religion des Mandalores. Et comment on fait ? Comment on fait pour redevenir un vrai Mandalorien ? Il faut qu'on aille se baigner. Mais c'est la planète maudite de Mandalore. La planète maudite de Mandalore, elle est abandonnée depuis des décennies. On ne sait pas ce qui se passe, c'est mystérieux. Il y a une malédiction étrange et tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ben, il faut y aller dans un vaisseau. Et puis, il y a un peu de brouillard. Hein, mais alors, tu descends et puis il y a un monstre dans une cave. Et tu prends un bain et c'est bon. Mais ça aurait pu être une saison entière, ce truc. Et une saison intéressante, genre, ah, qu'est-ce qu'il y a sur Mandalore, on découvre, et puis il faut explorer, il faut retrouver ce lac secret, sacré, secret, caché, et tout. Bon, et en fait, c'est un épisode, il va se baigner, il ressort, c'est terminé. Pareil avec un autre exemple, le fait qu'ils aient une nouvelle maison. Toute l'histoire des Mandaloriens, c'est qu'ils ont été... ils ont dû abandonner leur planète et c'est des apatrides qui sont dans toute la galaxie, un peuple légendaire super fort mais qui n'a pas de maison, et eux ils ont une religion hyper ancrée dans leur culture qui les unit, mais ils doivent retrouver une maison. Et ben il y a je sais même plus comment s'appelle cette planète débile où il y a le magistrat là avec ses quatre Pékins dans la ville qu'ils finissent par défendre et qui leur donne une partie de la planète, enfin de la prairie en dehors de la ville, et dit voilà, maintenant c'est votre nouvelle maison. Mais c'est une saison entière, ça. Le peuple des Mandaloriens qui finit par retrouver une patrie, par refonder sa patrie sur une planète qui les accepte enfin, alors que personne ne veut d'eux, qui les accepte enfin. Parce qu'ils sont venus à leur secours malgré le danger que ça représentait, au péril de leur vie, et sans demander quoi que ce soit en retour, juste parce que pour une fois ils sont pas des mercenaires, ils sont des gens bien. C'est un arc hyper intéressant, mais ils en font rien. C'est juste, non seulement ça se passe en un épisode et demi, mais en plus l'épisode d'après, c'est genre, ah mais en fait on va aller reprendre Mandalore, ah oui ok bon merci hein, pour la prairie, mais on se barre. Et puis ils retournent dans le vaisseau, il n'y a aucun enjeu à aucun moment, il n'y a aucun arc dramatique, il n'y a aucun poids à rien de ce qui se passe. Chaque épisode, quasiment, à chaque fois, je me disais, mais ça, c'est hyper intéressant si t'en fais, si t'explores un petit peu, si tu laisses le temps à l'histoire de se développer. Même la planète avec les robots qui, je ne sais plus s'ils se font assassiner ou ils essayent de reprendre le pouvoir, oui, et puis il y a une sorte de truc, plan machiavélique du chef de la sécurité. Même ça, c'est hyper intéressant. Tu veux faire tu changes un petit peu du space western et tu dis, OK, on va faire une sorte de film noir enquête sur cette planète bizarre. Pourquoi pas ? Mais fais au moins 2 ou 3 épisodes dessus, qu'on ait le temps d'apprendre des choses sur cette planète, sur la culture, sur les personnages. Ils étaient marrants, je trouve, les persos. Il y avait des choses à faire, mais ça reste en méga surface. Et c'est toute la saison comme ça. Du coup, j'ai été à aucun moment investi dans quoi que ce soit, et je me suis emmerdé du début à la fin. J'ai pas fini, hein, même le fait que l'orientation de la série, le focus de la série, se déplace de la relation entre Din Djarin et Grogu, et ça soit la reconquête de Mandalore. Super ! Mais Grogu, qui soit là au moins dans les épisodes, là, il est en fond et il n'a à aucun moment aucune importance, sauf quand il rentre dans son robot, il fait « no, no, no ». C'était une bonne idée, ça aussi, c'était marrant. Et il y a eu quelques scènes qui m'ont vraiment fait marrer. Mais du coup, Grogu, on le voit, il n'a quasiment aucune importance dans rien dans la série. Et je vais finir là-dessus. On est très conscient que Star Wars, c'est des magiciens de l'espace avec des épées de lumière. Et que, les super-héros, c'est des gens qui mettent des armures et qui volent dans l'espace. Il faut évidemment suspendre son incrédulité. Il n'y a aucun... Enfin, ce n'est pas à moi qu'on va apprendre qu'il faut au minimum suspendre son incrédulité. Mais... D'une part, les problèmes de cette série, ce n'est pas une question de science-fiction, de fantasy ou de quoi que ce soit comme ça. C'est des problèmes d'écriture et de facilité d'écriture qui n'ont rien à voir avec le fait que ça soit de la science-fiction. C'est juste mal écrit. Et d'autre part, dans les 2 premières saisons, quand les histoires de Mandalorian étaient un backdrop, étaient dans le fond, et ça fournissait le canevas pour raconter l'histoire de western. Très bien, ok, c'était pas mal. Maintenant que c'est devenu le centre, je suis désolé, mais c'est ridicule. Ils ont tous leur casque, ils peuvent pas enlever leur casque, ils mangent... Enfin, ils ont pas réussi à rendre ce truc-là crédible. C'est un truc qui m'énerve prodigieusement, c'est quand il y a un truc qui marche et... ils se sentent obligés de tout baser sur ce qui aurait dû être un exemple de la culture. Là, c'est tous des clones de Boba Fett. Boba Fett, il avait un jetpack, ils ont tous un jetpack. Un truc pour envoyer du feu, ils ont tous un lance-flamme. Un grappin, ils ont tous un grappin. Les gamins qui ont 10 ans et qui ont leur casque, enfin, c'est mini Mandalorien, grand Mandalorien, à la limite, ils doivent faire des casques à taille de bébé pour les foutre sur les... C'est pas une culture, ça. C'est juste reproduire le personnage de Boba Fett partout. C'est pas une culture. Ils ont pas construit une culture. Il y avait de quoi en faire quelque chose de riche et d'intéressant. Mais ils sont juste contentés de recopier d'un épisode sur l'autre les 2 lignes qui ont été vaguement inspirées par un personnage dont l'armure avait semblé cool au nerd qu'on était dans les années 80. C'est paresseux et ça marche pas. Et en l'occurrence, autant la culture des Mandaloriens avait été construite en quelque chose de crédible dans les 2 premières saisons, ici, je trouve que ça s'est complètement effondré et que c'est tout à fait ridicule. Sans parler du fait que, pendant l'attaque des pirates sur la planète de Carl Weathers, là, il dit « Oh, vite, il faut évacuer la ville !» Enfin, le manque de moyens est terrifiant. On a l'impression d'être sur une série de la WB, quoi. On va évacuer la ville, vite, amène tous les habitants dans le désert. Et ils se retrouvent, je déconne pas, ils se retrouvent à 22 dans le désert, ce qui est la population possiblement de toute la planète, mais en tout cas de toute la ville. Et ils sont dans le désert à 2 km de la ville qui est en flammes, et ils se cachent dans une cave. Et c'est la grande évacuation de la ville que le magistrat glorieux a réussi à organiser. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, tu ne peux pas t'empêcher d'être sorti de l'histoire, quoi. C'est pas possible.
Eh bien,
j'ai retenu ça dans mon cœur pendant 2 mois.
Ah ouais, non mais...
ouais, j'en aurais encore, mais je vais te laisser parler.
J'ai oublié deux choses.
Okay.
La première qu'on va dire qu'elle est mineure, c'est ce tout début de saison qui fait que si tu regardes Mandalorian saison 1, 2 et 3, il te manque un élément ultra crucial, qui sont les éléments qui nous viennent de Boba Fett et justement pourquoi est-ce que Grogu est encore avec Din Djarin, qui est à la fois un élément majeur en fait quand nous on l'a vu dans Boba Fett. Enfin, tu te souviens, on s'est dit mais c'est assez incroyable.
On l'avait déjà dit à l'époque.
Ces éléments-là, pourquoi ils avaient mis ces éléments-là dans Boba Fett, mais en plus, ça sert à rien parce qu'effectivement, Grogu ne sert à rien. Mmh. Donc, ce qu'ils ont fait dans Boba Fett, ils auraient pu tout à fait le faire à la fin de saison 3, en post-générique ou en fin de saison. Voilà, il a vécu son truc de machin et il décide d'aller revoir son Grogu qui le manque, etc. Quoi. Donc, il est vraiment juste là pour être le petit truc mignon, pour continuer à faire buzzer. De capitaliser sur la sympathie de ce petit personnage-là, quoi. Et à part ça, il n'y a rien.
Quand il marche, tu sais, à la fin, dans le dernier épisode, et qu'il saute à moitié parce que c'est une poupée, c'est hyper mignon, j'avoue que c'était quand même sympa. Ouais. Mais je suis d'accord, il sert à rien. Ça aurait été tellement mieux s'ils avaient mis ces deux épisodes de la fin de Boba Fett, de la moitié de Boba Fett. Mm-hmm. À la fin, en post-générique, genre, il arrive sur la planète de Grogu avec Luke, et tu vois juste, il arrive, t'as pas besoin de plus. Et, entre parenthèses, encore un truc qui aurait été hyper intéressant à explorer, le fait qu'il veuille faire rentrer Grogu dans la population des Mandaloriens, le prendre comme apprenti, tout ça, et qu'au final, il l'adopte, ça aurait été intéressant, et qu'après, il part dans leurs aventures dans la saison 4, pourquoi pas. Mais ça encore, c'est pas exploré. Tu vois, c'est juste « Ah, maintenant, c'est mon foundling. » Ok, d'accord. « Ah, et attends, si je l'adopte, c'est bon ? » Oui, ok, tu l'adoptes. Écris-le dans les chansons. « Qu'il soit connu maintenant qu'il est le fils. » Ok, super, très bien. Merci, et on y va. Bref, et le deuxième truc.
Et le deuxième truc, c'est la volonté qui est maintenant plus... Enfin, qui est un peu forcée, quoi, de raccrocher absolument les wagons avec... The First Order, là, du coup, avec la Garde Rouge et ce qui va à la suite, quoi. Et je trouve que ça, à la fois, ça sort de nulle part, c'est même pas très intéressant. Et du coup, ça donne aussi une impulsion, comme ce que tu disais, quoi, de vouloir absolument avancer la trame générale pour accrocher vers First Order. Et du coup, passer super vite sur toutes les péripéties qu'il y avait avant, quoi. Et puis, franchement, le personnage de Moff Gideon, moi, je le trouve vraiment insipide au possible. Et je le trouvais déjà pas non plus incroyable dans les deux premières saisons. J'avais pas spécialement besoin ou envie que ce soit encore lui, l'antagoniste principal.
Complètement.
Ouais, du coup...
Mais tu vois, par exemple, le mystère de ce qu'il fait avec ses clones. Le truc, c'est que les clones, ça marche. Il y a des clones dans l'historique de Star Wars. Et l'idée de ce qu'il est en train de faire avec, si tu le ramènes et tu centres tout le truc autour de ses clones mystérieux, qu'est-ce qu'il fait avec les clones, machin, c'est hyper intéressant. Et en plus, on sait que la force a une composante biologique. Donc pourquoi pas ? Tu vois, tu rends ça intéressant, tu rends ça intriguant et tu fais tout ça un mystère. Pourquoi est-ce qu'il cherche des clones ? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à étudier, tu vois, à essayer, j'en sais rien, mais à essayer de choper des Jedi morts, par exemple, pour essayer de comprendre des trucs. Mais pourquoi ? Ils s'en foutent, ils sont morts. Et puis en plus, ils sont difficiles à trouver parce qu'il n'y a plus de Jedi ou même des Jedi vivants, j'en sais rien. Et peut-être même qu'il cherche Grogu parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de la force. Il y avait tellement de trucs à faire avec ça. Mais il le révèle à la fin, dans le dernier épisode, dans une ligne. « Ah oui, au fait, je le fais. Et vous les avez tués !» Oui, entre parenthèses, le petit bouton super explosion des clones, dont on ne connaissait pas l'existence 40 secondes avant, et 40 secondes après, ils sont tous morts, les clones. Encore un truc. Et Gideon, non seulement il n'était pas nécessaire, enfin, ou alors, faites-en quelque chose, mais t'as raison, il n'était pas incroyable, mais en plus, son armée de faux Mandaloriens, là... Mais ça suffit, les versions méchantes des gentils, quoi. Favreau, il a un vrai problème psychologique, quelque part. il a impulsé ça au MCU. Et non, c'est pas vrai, c'est pas lui, mais on en avait déjà beaucoup dans le MCU. Comment est-ce qu'à un moment, tu vois ce script et tu ne te dis pas « Eh, les gars, il y a peut-être un... un problème. Et ces scènes ridicules où ils se tirent dessus, ils ont tous des armures en Beskar, on est d'accord. Les armures en Beskar, c'est censé être le métal qui résiste même au sabre laser. On est bien d'accord. Hein. Et ben, ils ont tous des armures en Beskar et ils se tirent dessus au pistolet laser. Et ils savent que ça leur fait rien, mais de temps en temps, ça fait quelque chose, parce qu'il y en a un qui tire quand même, parce que... Et à un moment, ça va, les Stormtroopers qui savent pas tirer, c'est marrant, parce que c'était comme ça dans le premier épisode, et puis dans le deuxième, et puis... Mais à un moment, ça peut pas devenir à tel point que ça retire tous les enjeux de toutes les scènes d'action. Tu construis une dramaturgie dans les scènes d'action un minimum, là, il y en a plus. Et encore une fois... Le Mandalorian se fait capturer à la fin de l'épisode 7. Ah oh merde ! Ça y est, ils l'ont eu, ils l'ont capturé. C'était ça leur objectif, en fait. Ils voulaient le capturer. 10 premières secondes de l'épisode 8, il se libère parce qu'il est en train de marcher avec deux gardes et qu'évidemment, deux gardes à la con, ils vont pas capturer le Mandalorian. Quel naufrage pour Pedro Pascal. Moi, à mon avis, il va se barrer à la saison 4 ou 5, quoi. Il va arrêter. C'est plus possible. Excuse-moi, Johan.
Je voulais revenir justement parce que moi en fait j'ai eu tout le long de la série, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en fait le doigt sur à la fois sur ce qui va vraiment pas et aussi sur qu'est-ce qui va bien en fait dans cette saison. Et vraiment là je regardais ce matin, je scrollais un petit peu dans les épisodes des saisons 1 et 2 et c'est vrai qu'il y avait quand même une atmosphère en fait, ils avaient créé quelque chose avec The Mandalorian et tu t'en as parlé, tout cet aspect un peu western et aussi surtout, et je pense que c'est un peu l'épiphanie là quand tu l'as évoqué, tout le mystère autour justement de la culture de Din Djarin. Cette espèce de secte mandalorienne, donc avec tous leurs rituels, leurs phrases, voilà, les mots qui viennent ponctuer, c'est quoi, c'est This is the way, enfin, ouais. toutes ces choses-là rendaient vraiment un truc assez particulier, je trouvais, dans la saison 1 et 2. Et déjà, dans la saison 2, il y a cette espèce de plot twist. C'est la saison 2 où ils rencontrent justement Bo-Katan, c'est peut-être la saison 1, où on se rend compte qu'il y a des Mandaloriens qui mettent pas les casques, etc. Il y a vraiment tout un background super mystérieux, super intéressant. Et t'as envie d'en savoir plus, mais c'est pas parce que le public a envie d'en savoir plus qu'il faut lui en donner plus en fait. Parce que justement cette sensation de mystère, elle est importante et elle fonctionne super bien. Et là, dans la saison 3, ça n'a plus. T'as raison, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que ça y est, on est avec ceux qui enlèvent leur casque et c'est plus super important et finalement qu'il y a des casques, qu'il n'y a pas de casque, qu'est-ce qu'on s'en fiche, et puis ils sont tous là, tous regroupés, ils sont nombreux, donc il n'y a plus du tout cette espèce de truc un peu solennel, un peu mystérieux, un petit peu religieux, tout ça ça disparaît vraiment, enfin, je trouve assez, enfin, complètement quoi.
Et bah, du coup on quitte... tu peux construire un truc avec ceux qui sont adeptes de la religion et ceux qui le sont moins et puis ils réussissent finalement au bout de la saison par 100 ans de machin. Mais là, c'est trop
léger. Là, c'est pas construit, quoi. Mmh. C'est juste le forgeron fait son petit speech. Enfin, Bo-Katan fait son speech et puis c'est parti, quoi.
And ouais, so voilà. She can take off her helmet. Mais c'est pas grave, vous emmerdez pas. Vous avez vécu toute votre vie en tant qu'exilé et la moindre personne qui enlevait son casque était excommuniée immédiatement. Et c'est ce qui fait notre identité, notre culture. Mais eux, ça va, c'est pas trop grave. Ça va. Ah, au fait, comment elle s'appelle ? C'est The Armorer, c'est elle. Et une sorte de prêtre, ok, mais enfin... Est-ce qu'elle est obligée de se battre avec son marteau et son machin ? À la limite, même ça, ça pourrait être bien, mais c'est moyen. Bon.
Ouais, ça marche pas.
This is the way. Ah,
okay. Et du coup, voilà, on quittait cette espèce d'ambiance un petit peu... Il y avait un côté naïf dans les Mandalorian saison 1 et 2. Il y a un côté un petit peu, tu sais, un petit peu feel-good, naïf. C'était... Je veux dire, les trames n'étaient pas super complexes, quoi. Parfois, tu avais des épisodes assez courts, etc. Et là, on rentre dans un espèce de... où on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire, quoi. Il y a à la fois ces épisodes quasiment un petit peu... ce que j'appelle les épisodes Doctor Who, c'est-à-dire la planète avec les robots, enfin vraiment, où tu vois que c'est un épisode autocontenu, voilà, l'épisode en lui-même, il y a eu un prétexte pour l'amener, mais ce n'est pas important, et c'est limite un filler. Mais ça reste des épisodes qui peuvent être intéressants. Donc il y a cet aspect-là. Ils ont essayé de faire limite du Andor avec l'épisode où il y a l'amnestie des anciens nazis
sur
qui est super intéressant en fait, qui est vraiment super intéressant et d'ailleurs qui est assez bien foutu comme épisode. Moi je savais pas d'où ça sortait quoi. Je me suis demandé si je regardais bien la bonne série parce que du coup ça tranche vraiment avec cette espèce de naïveté dont on a l'habitude dans Mandalorian. Et puis après on quitte ce truc là pour autre chose et en fait voilà, j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. À la fois il y a des combats extrêmement cheap où les gens ils savent pas se battre, ils sont coincés dans leurs armures et c'est à la limite du ridicule. Et à côté de ça, t'as des monstres gigantesques quand même assez bien faits ou des combats spatiaux assez impressionnants parfois. Enfin, ça va vraiment dans tous les sens. Et on a l'impression que Favreau a envie de faire plein de choses en même temps et c'est pas trop quoi nous servir en fait. Et donc chaque épisode, tu sais pas du tout ce que tu vas avoir quoi. Tu sais pas si tu vas avoir un truc ok, un truc catastrophique, un truc cheap, un truc avec des effets spéciaux super super impressionnants. Enfin, tu sais pas si ça va être un épisode de la semaine ou si ça va être un truc super grandiloquent en deux parties machin. Enfin, c'est vraiment le bordel quoi. C'est le bordel. Et du coup là-dedans, je continue de penser qu'on peut s'y retrouver parce que
Ah, il y a des gens qui ont aimé, hein, je veux pas qu'on laisse penser
que... Il y a des gens qui ont aimé, mais tu vois, il y a des gens qui ont aimé aussi Boba Fett, donc... mais tu vois, pour moi, ça reste très au-dessus... Ah,
comment discréditer.
Ça reste très au-dessus de ce qu'on a fait avec Boba Fett.
Complètement, enfin, oui.
Pour moi,
c'est médiocre moins cette saison. C'est même mauvais, mais Boba Fett, c'était abyssal. Donc oui, on n'est pas au même niveau de lamentable quoi.
Mais en fait, c'est plutôt le jeu des attentes et de ce qu'on aimait bien dans les saisons 1 et 2 qui font qu'on ressort extrêmement déçu en fait de cette saison là quoi.
Ouais.
Et tu vois, il me manquait les deux derniers épisodes à regarder là jusqu'à hier soir. Et du coup, moi, j'en parlais sur un Discord et on m'a dit, on m'a dit, oh, c'est vrai que la saison est pas bien, mais les deux derniers sont vraiment géniaux, tu vas voir, c'est super divertissant et tout.
Mais qui t'a dit ça? Ne dénonce pas.
Je vais pas donner de nom. Et du coup, en fait, non, quoi. En fait, c'est vraiment, limite, c'est ceux que j'ai le moins aimé, quoi. Alors, c'est vrai que ça explose de partout, il y a des choses qui se passent en termes d'action, etc. Mais voilà, je suis. Alors, je sais pas si c'est le cheminement jusque-là, mais en tout cas, j'ai été dans un état assez de détachement, un peu, sans retour, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je sais même pas si j'attends particulièrement une saison 4.
Ouais.
Ou quoi, les perspectives ne m'intéressent vraiment pas du tout, quoi.
Bah, disons que ce qu'on peut espérer de sympathique dans la saison 4, c'est effectivement qu'on revient à. Et à la limite, c'est hyper dommage parce que aller explorer la reconquête de Mandalore, la culture des Mandaloriens, ça aurait été hyper cool. Mais bon, ok. Et puis ils se sont obligés de casser le Darksaber. Il suffisait de d'appuyer un petit peu dessus, hein. Et tout ce pan de la légende et de la culture des Mandaloriens, bah c'est fini. Au revoir. Et là encore, aucun enjeu. Bref. Ok, on aurait pu passer au chapitre Din Djarin et les Mandaloriens, mais on a fait ça dans une saison pourrie. Pourquoi pas revenir à Din Djarin et les aventures de Din Djarin et Din Grogu dans l'espace, dans l'extrémité de la galaxie. Why not? Ça pourrait être sympa.
Ouais, mais le problème c'est que. Même s'ils vont là-dessus, tu sais très bien qu'au bout du quatrième épisode, on verra un clone de Moff Gideon sortir avec la force, et cette fois-ci, il revient, mais il a la force, etc. Enfin, j'ai plus d'espoir de revenir maintenant à cette espèce de naïveté, de se dire, oui, on va repartir sur les petites missions de mercenariat pour apprendre le taf à Grogu, et puis il va se passer des choses, tu as des péripéties. Non, là pour moi, ils peuvent plus revenir en arrière, il y a forcément un truc de plus en plus gros et tout ça, quoi.
Peut-être que ça veut dire que tu seras agréablement surpris par la saison 4, peut-être. Comme tu as été déçu par la 3. Mais tu sais, moi, je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait des trucs que Moff Gideon revienne, ou qu'il y ait des clones, ou j'en sais rien. Sur le principe, ça peut être bien fait. Si c'est bien fait, tu vois, c'est pas... Moi, j'ai aucun... Surtout que Disney a prouvé que, oui, ils sont capables du pire, mais ils sont aussi capables du meilleur, en ce sens qu'ils peuvent rendre crédibles et faire fonctionner des concepts qui, a priori, n'ont aucune chance de ne pas être ridicules. Et on l'a vu en particulier dans le MCU, il y a des trucs où jamais j'aurais pensé que ça pourrait fonctionner, et sur toutes les trois premières phases, alors il y a eu des ratés et des réussites, mais sur les trois premières phases, il y a eu des trucs complètement ridicules qui étaient vraiment prenants, émouvants, etc., etc., avec des super-héros en costume qui n'avaient aucune raison de pas être, d'être autre chose que des histoires pour gamins, quoi. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je suis ouvert à tout. Mais quand c'est un petit peu travaillé et approfondi, quoi.
Bon. Et voilà, bah, on espère que Ahsoka sera de meilleure facture.
Alors, Ahsoka, il y a plusieurs trailers. Peut-être qu'on va prendre un petit moment pour parler de trailers qu'on a vus. Il y en a qu'on n'a pas vus. Mais pour rester dans l'univers Star Wars, t'as vu le trailer d'Ahsoka ?
Non.
Ah bon, ok. Moi, je crois que j'en ai vu un petit bout, puis je me suis arrêté. Ouais. Mais j'ai bon espoir pour Ahsoka. On verra. C'est quand ? Quand est-ce que ça arrive, Ahsoka ? Je ne sais plus.
Eh ben, j'en ai aucune idée, mais c'est cette année, c'est sûr.
C'est
en août.
En août, ok. En août, donc bon, on en reparlera, on suivra évidemment ça. Pardon.
Un indice chez vous, si on couvre l'épisode 1, c'est que c'est incroyable. Si on couvre l'épisode 1 et 2, c'est que c'est pas mal. Et si on attend la fin de saison, c'est qu'on n'a pas aimé.
Voilà, exactement. Bon, en même temps, c'est l'été, donc on sera peut-être un peu occupé. On ne sait pas, tu vois, je mets du mystère, j'insère du chaos dans nos discussions. Donc, bon, ça, c'est pour Star Wars. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous intéresse sur Star Wars. On verra, enfin, que j'ai noté. Mais il y a aussi des trailers.
Pour moi, il y a Star Wars Vision, la semaine prochaine.
Ouais.
Toi, t'as... Ouais, moi, c'est vraiment une petite friandise que j'avais beaucoup aimé la première partie. Et là, j'ai vu des extraits. Il y a plein de studios que j'aime bien. Donc je vais regarder ça après, oui. C'est pas forcément un truc dont on va faire un podcast dessus, mais à la limite, on pourra en parler rapidement.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est ça, c'est un petit truc, c'est pas non plus... C'est pas pour ce genre de choses qu'on a créé Super Laser Punch, tu vois. Bon, mais effectivement, Ahsoka, c'est... Alors, tu veux que je te fasse peur pour Ahsoka ?
Allez, vas-y.
Le premier épisode, qui arrive effectivement en août, a été écrit et réalisé par Dave Filoni. Sais-tu où on retrouve Dave Filoni ?
Je connais ce nom.
Il a co-écrit deux épisodes et plusieurs épisodes de Mandalorian, en fait. Il a écrit et réalisé un épisode de la saison 1, écrit et réalisé un épisode de la saison 2, et co-écrit deux épisodes de la saison 3. Donc, je ne sais pas si ça fait peur ou pas peur, mais voilà, il était impliqué dans toutes les saisons de Mandalorian.
Là, je vois qu'il est aussi derrière les séries animées, là. Star Wars, The Clone Wars, Rebels, etc.
Et, entre parenthèses, la série Ahsoka a été développée par John Favreau et Dave Filoni.
Donc ça peut être bien et ça peut être difficile.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que John Favreau, il réussit bien les lancements de trucs. Donc, tu vois, a priori, ça pourrait être très bien. Il faut juste qu'il le file à quelqu'un d'autre à partir de la saison 2 ou 3. Bon, écoutez, on en reparlera en août. Du côté du MCU, il y a des choses aussi. Mais c'est la semaine prochaine ou... Oui, c'est la semaine prochaine.
Oui, c'est la semaine prochaine, oui.
Si tout va bien, je devrais pouvoir le regarder dès le lancement. Donc, on pourra faire un enregistrement relativement vite, si ça te va.
Alors, moi, je ne pourrais pas le voir avant le samedi, malheureusement.
Ok. Bon, on verra si on fait dans le week-end. On se débrouillera. Le temps que les auditeurs puissent le voir aussi. Qu'est-ce que tu t'attends de ça ? Bien, pas bien ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Je suis pas un fan, moi, des Gardiens de la Galaxie. Le 2 est peut-être le film du MCU que j'aime le moins, au total.
Ouais.
Même en, même en, même en ajoutant les derniers qu'on n'a pas trop aimés. Le premier, j'avais trouvé ça... En fait, le premier, j'avais trouvé ça frais. Voilà, pour toute cette ambiance qu'on connaît des gardiens, un petit peu, voilà, un peu, voilà, cette espèce d'humour un peu typique qui est maintenant devenu, qui s'est inscrit dans l'ADN de tout le MCU maintenant. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est que Gardiens de la Galaxie, je trouvais ça sympa quand tous les films n'étaient pas déjà Gardiens of the Galaxy, quoi. Et du coup, j'ai peur que ça reste dans cette tonalité qui m'exaspère un petit peu. Donc on verra, je sais qu'il y a des retours quand même relativement positifs là sur ceux qui l'ont vu. Donc écoute, j'y vais quand même avec moins de prudence qu'avant Ant-Man. C'est-à-dire qu'avant Ant-Man, c'était vraiment pas un projet que je regardais. Maintenant, je me dis, allez vite, on a besoin d'un réalisateur qui sait ce qu'il fait, quoi. Ouais. Vite.
C'est ça, c'est-à-dire que bon, moi j'adore le premier, Guardians, il est incroyable, et ça m'a donné une foi en James Gunn qui s'est très vite démenti, malheureusement. parce que j'ai pas aimé ces projets, ces autres projets, mais le 2, effectivement, je l'ai trouvé mauvais, pas aussi mauvais que toi, mais je l'ai trouvé vraiment mauvais, je l'ai pas aimé. Et puis les projets qu'il a fait pour DC, bon, c'est bien, c'est pas mal, mais je suis pas fou, et il a l'air de pas réussir à sortir de son humour un petit peu potache qui fonctionnait très bien dans Guardians et qui était peut-être nécessaire. Justement, je parlais tout à l'heure des trucs complètement improbables qui devaient pas marcher, mais qu'ils ont réussi à faire marcher, et on doit remercier James Gunn pour ça, parce que le raton laveur qui parle et l'arbre conscient, c'était pas un truc que j'imaginais adorer, tu vois. Il a, en un film, justifié complètement toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie et toute une partie complètement improbable du MCU. Donc, je suis ouvert à Guardians 3, tu vois, j'ouvre mes chakras pour laisser entrer en moi les qualités de Guardians 3. J'ai quand même un petit peu d'appréhension parce que je sais pas quel James Gunn on va avoir, quoi. Mais bon, écoute, on aura la réponse dans une semaine. À part ça, il y a The Marvels, qui est donc un petit peu Captain Marvel 2 et en même temps Captain Marvel plus Captain Marvel Photon plus Miss Marvel Kamala Khan, dont on a vu un trailer. C'est l'un des seuls trailers que j'ai vu de ce qu'on attend pour ces prochains mois. Et il arrive, je ne sais plus quand, dans 3 mois, 2 mois, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu...
Plus du tout, mais... Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce. Ouais. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette.
Alors pour le coup, c'est rigoladerie, hein. Ah, c'est novembre.
Ah oui. Ouais. Oui, pour le coup, c'est rigoladerie, mais dans ce qu'on a vu, alors déjà, moi, je fonds, hein, Kamala Khan, je la trouve vraiment, vraiment rayonnante, cette actrice et son jeu du personnage. Donc, je suis vraiment ravi de la voir. J'ai beaucoup aimé la séquence voilà, qui est montrée dans la bande-annonce avec elle. On a l'air aussi de plus remontrer à nouveau toute sa famille et puis sa culture, etc. Donc voilà, donc je ne m'attendais pas du tout à cette... à voir ces images-là, en fait. Et puis après, bon, oui, il y a un gimmick, visiblement, il y a un gimmick dans le film qui prête à la comédie. On va voir comment c'est géré tout ça. Mais non, je suis
en fait disposé.
Plus on a vu les derniers projets de Marvel, plus c'est compliqué d'être super sûr de soi quand on dit qu'on attend un Marvel maintenant. Et celui-là, ouais, je reste dans le positif et j'ai toujours hâte, même si c'est pas super. Je serais vraiment super content de revoir Kamala Khan dans son rôle et tout ça, quoi.
D'accord. Bon, j'ai pas mal d'appréhension parce que ça m'a l'air encore une fois être un peu trop comique.
Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience côté Marvel sur cet aspect-là, mais que
c'est, eh oui, mais c'est des tels paquebots. Pour,
voilà, ouais, c'est des tels paquebots que, à mon avis, si changement il y a, on le verra pas avant 2 ans, quoi.
Ouais. C'est. Pardon, je me suis muté. je pense effectivement que c'est. Écoutez,
bon.
On verra. Et puis le dernier truc dont on voulait vous parler, c'est Secret War. C'est Secret War, oui.
Secret Invasion.
Secret Invasion, pardon. Oui, mais oui, Secret War, c'est plus tard. Secret Invasion, qui est une autre série donc Disney+, qui reprend un arc hyper important, un event hyper important de l'univers Marvel, où les Skrulls ont envahi la Terre et où ils ont pris la place de nombreux super-héros Marvel. Et on découvre tout à coup qu'en fait, ils sont là depuis des années. J'imagine que la série qui arrive bientôt, c'est quand c'est pas dans l'été aussi? On n'a pas de date.
C'est en juin?
En juin, le 21 juin.
Ouais.
En 6 épisodes, j'imagine que la série va pas reprendre l'event, l'ampleur de l'event du comic de la même manière que Civil War ne reprenait pas l'ampleur de l'event du comic. Donc on aura beaucoup moins de nombreux super-héros qui sont en fait des Skrulls depuis longtemps. Mais c'est difficile de pas être enthousiasmé par le concept. Et je crois que le trailer, je crois que tu l'as vu aussi, a l'air plutôt cool. Enfin, a l'air de fonctionner, quoi.
Ouais, moi, j'étais assez dubitatif et voilà, le trailer m'a donné envie. On a l'air de retourner à quelque chose d'un peu sérieux, quand même, d'un peu plus pris au sérieux. Donc, comme c'est une série, moi, j'ai toujours un peu peur côté budget chez Marvel. Mais écoute, non, ça, là, pour le coup, j'y vais... Je connais pas, moi, l'arc des comics en question. Je le connais, voilà, parce qu'il est assez légendaire et tout ça, mais... Je n'en connais pas grand-chose. Et du coup, bah, ouais, j'y vais avec enthousiasme.
Donc toi aussi, enthousiasme. Tu ouvres tes chakras, là.
Ouais. J'ouvre mes chakras et j'ouvre encore plus mes chakras pour Loki saison 2. Mais il devait sortir cet été, mais je vois pas de date. Donc,
Ah oui, ok. Sur Secret Wars, très rapidement, ça a l'air d'être très centré sur le Shield. Hein. On a Samuel L. Jackson qui est de retour après des années d'absence. On a Maria Hill, on a plein de personnages du Shield lui-même. Donc il est même possible qu'on n'ait pas beaucoup de super-héros et que ça soit uniquement des Skrulls qui ont envahi différents niveaux du gouvernement américain, par exemple, ou ce genre de choses. Moi, je crois que c'est plutôt dans cette direction qu'on se dirige. Mais bon, on verra ce que ça donne. Ouais.
Oui. J'aimerais juste rajouter un truc là-dessus, c'est j'ai vu pas mal de gens attendre cette série-là, qu'elle fasse exactement ce qu'avait fait, c'était Captain America 2, où justement il y a toute l'histoire d'Hydra qui est révélée et qui a, on va dire, chamboulé complètement tout l'univers. En plus, à l'époque, il y avait la série The Shield, on pensait que c'était encore dans que les MCU, et on voyait les effets du film sortir dès l'épisode d'après et tout ça, machin. Je pense qu'il faut pas, il faut plus s'attendre à de tels trucs, quoi. Je m'attends pas à ce que qu'on ait l'impression que d'une série télé, le monde du MCU soit chamboulé juste après, et qu'en fait, tu vois, il y a vraiment un aftermath super, un après-coup super impactant et tout. Je pense que ça va rester quand même assez contenu dans la série, quoi.
Je pense aussi, et c'est pour ça que je me dis, ça va pas affecter les super-héros, mais seulement le gouvernement américain, tu vois. Genre un truc à la con, à la fin on révèle que le président était en fait un Skrull, oh non, ou au moins le chef de la CIA ou un truc comme ça, j'en sais rien, tu vois, ce genre de choses. Mais bon, on verra ce que ça donne. Et tu disais Loki saison 2, oui, effectivement, on a vu un petit trailer, je crois, c'était même un petit teaser. J'ai envie,
pas non, toi.
Ouais, moi j'ai envie de quelque chose de très bien et d'être excité, mais tu vois, c'est vu ce qu'on voit, parce que ça touche vachement au multivers, et vu ce qu'on a du multivers en ce moment, enfin vu comment ils développent le multivers chez Marvel, j'ai vraiment peur. Et surtout que la deuxième partie de la saison 1 de Loki, moi, m'avait un peu moins, tu vois, la fin est pas hyper.
Ouais, moi j'avais bien aimé quand même. Moi j'avais quand même bien aimé. Après, je sais pas quand est-ce qu'ils vont la sortir, la série. J'ai l'impression que parce que s'ils devaient sortir cet été, c'était peut-être le moment d'annoncer une date. On arrive au printemps. Je sais pas si les problèmes avec Jonathan Majors qui est accusé, dont il y a d'ailleurs il y a un verdict là qui doit tomber en mai, etc.
Accusé de violence
sur sa compagne, hein, c'est ça. Et du coup, je suppose que Disney essaye de repousser toute actualité proche de ça. Probablement que eux-mêmes n'ont pas encore décidé comment ils allaient gérer la présence de Major dans la franchise, quand même, puisqu'il a un rôle quand même ultra central. Donc voilà.
Bon, à voir si ça a un lien avec ça. On vous tiendra au courant, hein, si on a des informations sur la sortie de la saison 2, effectivement. Et je crois que c'est à peu près tout.
Ouais.
Sur les trucs à venir.
C'est presque tranquille, hein, par rapport à l'année ou les années d'avant, là.
Ouais, écoute, qu'ils prennent le temps de se calmer un petit peu et de faire les choses bien. Je pense que ça sera pas un mal. Du coup, mais on se retrouve bientôt, alors, pour Guardians saison 3. Peut-être un renouveau pour le MCU après un début de phase 5 un petit peu trébuchant. On se retrouvera, je pense, d'ici... Attends, on est quel jour ? Pas une semaine, mais une dizaine de jours, deux semaines maximum.
Au maximum deux semaines, ouais.
Et on vous dira ce qu'on aura pensé de Guardians saison 3. Non, Guardians épisode 3, qui doit être le dernier.
Épisode 3.
Merci beaucoup, Johan, d'avoir partagé ce moment avec moi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, par exemple ?
On peut essayer de me retrouver sur Twitter à @yohant_, mais comme je suis pas blue, mes commentaires s'enfoncent dans les tréfonds de la poubelle de Elon Musk, et du coup, j'ai pas le droit d'être
vu. Si on me suit, Johan, et aller dans votre tab following, et là, il n'y a plus de problème. Vous voyez très
c'est
bien.
C'est vrai.
Ouais, tu vois. Super, donc il y a ça, il y a aussi le Discord, bien sûr, vous pouvez nous retrouver, le lien est dans les notes de l'émission, vous pouvez nous retrouver dans le Discord à parler de plein de choses, dont les séries et les films qu'on aime bien ou qu'on aime bien détester. Et pour ma part, c'est également sur Twitter notamment, mais aussi dans d'autres podcasts comme le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous Jeu, dont les liens sont soit dans les notes de l'émission, soit sur notepatrick.com tout simplement. Et vous pouvez donc me retrouver là-bas pour entendre tout ce qu'il faut retenir de l'actualité tech ou gaming dans ces deux différents podcasts toutes les semaines. Je vous fais de gros bisous. J'imagine que Johan se joint à moi pour faire de gros bisous.
Tout à fait.
Et on se retrouve très très vite.
Allez, à bientôt.
Ciao, ciao.